Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine dans l'actualité des territoires. La santé publique des TNO confirmait cette semaine qu'il y a 3 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire, ce qui porte le total à 8 depuis le début de la pandémie. On fait le point avec mon collègue Baptiste Foisy. La ministre des Finances, Caroline Vazonec, a présenté une mise à jour budgétaire à l'Assemblée législative. Et malgré les dépenses et pertes de revenus provoquées par COVID-19, le GTNO se retrouve avec un surplus budgétaire. C'est cette semaine que débutait la session d'automne de l'Assemblée législative du Nunavut et c'est aujourd'hui, vendredi 23 octobre, que se décidera le sort du ministre Patrick Netzer. Il y a 4 mois, le GTNO exigeait de faire partie du comité de surveillance des sables bitumineux avec l'Alberta. Qu'en est-il aujourd'hui? On fait le suivi avec mon collègue Denis Laure. Ma collègue Nelly Guédissi nous parle cette semaine des dégâts provoqués par la fonte du pergélisol qui affecte l'unique voie d'accès routier pour les collectivités d'Inuvik et de Toktoyaktuk. Le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest tenait cette semaine son Assemblée générale annuelle. Et finalement, ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade nous parle de la 14e édition du Festival international du film de Yellowknife. La confirmation de 3 cas de COVID-19 au TNO cette semaine a servi de rappel à l'ordre pour le territoire où l'on s'était habitué depuis le printemps dernier à l'idée que le virus ne l'atteigne pas. Baptiste Foisy est ici pour faire le bilan. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Baptiste, 3 nouveaux cas actifs de COVID-19 au TNO cette semaine. Est-ce que la seconde vague a franchi le 60e parallèle?
Bon, il serait beaucoup trop tôt pour faire une telle affirmation, Thomas. Pour l'instant, là, il s'agit là, de 3 cas, ce qui porte à 8 le total au territoire du Nord-Ouest, ce qui est quand même beaucoup moins là, que dans la majorité des juridictions canadiennes, à l'exception en fait du Nunavut, où il n'y a toujours pas de cas. Et ces 3 cas-là, surtout, ce qui arrive, c'est que ils ont été, en somme, contenus, mais ce qui est la particularité, c'est que pour la première fois, on a un cas d'une personne qui aurait contracté la COVID-19, non pas en voyage et qui l'aurait ramené et que les symptômes se seraient développés en auto-isolement, mais qui aurait bien développé la COVID ici, au territoire du Nord-Ouest. Ça a créé une situation ça, particulière où, pour la première fois, on a eu ce qu'on a appelé une notification d'exposition. Mm-hmm. C'est un nouveau terme à apprendre. Ça veut dire, en fait, qu'on a dit aux gens qu'ils avaient peut-être été mis en contact avec le virus. L'annonce en a été faite vendredi dernier. C'était 2 endroits qui étaient visés, là, un centre sportif de Yellowknife et la Gendarmerie royale du Canada également. Et suite à ça, là, on a enclenché toute une opération de recherche de contact. Et au final, 20 de personnes ont été placées en auto-isolement préventif.
Et donc, si des personnes ont pu être exposées, est-ce qu'il faut craindre la transmission à l'heure actuelle?
Non, pas du tout. En fait, on semble avoir bien circonscrit le problème du côté de la santé publique. Donc, on a effectivement là, fait le retraçage de ces cas. Et tant et si bien qu'on ne pense pas là, qu'il y ait d'autres possibles transmissions, d'autant plus que toutes les personnes qui ont été placées en auto-isolement préventif en date du 21 octobre, en tout cas, ces personnes-là n'avaient pas développé de contact, aucune d'entre elles, ce qui laisse présager qu'en somme, il n'y a pas eu de transmission. On continue tout de même de rechercher des contacts possibles, mais jusqu'à présent, la santé publique affirme que le risque de transmission est très faible.
Il y avait une seconde ronde de tests, je pense, aujourd'hui. Là, on est jeudi, moment d'enregistrer l'émission. La présence d'une personne qui aurait contracté la COVID-19 ici même au territoire, est-ce qu'on sait comment ça a pu se produire?
Oui, bien, c'est assez simple. En somme, là, c'est une personne qui était avec l'autre cas. Il y a 3 cas, là. 1 à Inuvik, 2 à Yellowknife. La première, dans le cas d'Inuvik, une personne qui revient de voyage. Dans le cas de Yellowknife, une personne qui revient de voyage. Ça, c'est le scénario classique. Et là, pour la troisième personne, c'est une personne qui aurait contracté la COVID parce qu'elle résidait avec cette personne qui était en auto-isolement à son domicile. Tout cela, bien sûr, a posé la question de ces auto-isolements à domicile. Là, dans les plans d'auto-isolement là, qui sont approuvés là, routinièrement par la santé publique, il y a souvent des situations comme ça où une personne réside avec d'autres personnes qui, eux, ne sont pas tenues de s'isoler. Mais bon, il faut garder une distance, là. C'est ça qui est la règle. Et alors, on a soulevé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ces règles-là? On peut écouter la réponse de l'administratrice en chef de la santé publique, la docteure Camille Candola.
The way we can diminish the risk of spreading COVID within the community is requiring self-isolation for the individual traveling in. And ideally, self-isolation from the family. But if that's not possible, the way we can effectively decrease household transmission is to have whole families self-isolate together. And that's particularly important if someone's symptomatic.
Donc, l'administratrice en chef de la santé publique des TNO, la docteure Camille Candola, qui dit ne pas remettre en question pour l'instant la pertinence de l'auto-isolement à domicile. Elle rappelle l'importance pour les personnes en auto-isolement de pratiquer un éloignement avec les autres personnes qui partagent la même résidence. Et dans le cas où ce ne serait pas possible que tous les membres d'un même foyer, d'une même famille, par exemple, s'isolent ensemble. Elle ajoute que cette vigilance est particulièrement cruciale lorsqu'on présente des symptômes. Et Baptiste, qu'en est-il des autres cas de COVID-19 qui ont été dépistés au TNO cette semaine?
Oui, bon, ben l'autre cas à Yellowknife, comme je vous le disais, ben, c'est le cas qui est l'origine de ce fameux autre cas qui s'est baladé. Il s'agissait d'une personne qui revenait de voyage, placée en auto-isolement. Elle aurait suivi le protocole, mais bon, on a vu, là, il y a un risque quand même de transmission qui existe. Du côté de Yellowknife, des Nuvik, dis-je bien. Encore une personne qui revenait de voyage à l'arrivée de l'Alberta, arrivée par voie terrestre. Cette personne-là se serait placée directement en auto-isolement à son arrivée chez elle et n'aurait pas eu de contact avec personne, tandis bien qu'on considère que le risque de transmission dans ce cas-là est à peu près inexistant là, ou très faible.
Merci beaucoup, Baptiste.
Je vous en prie, Thomas.
Les coûts engendrés par la pandémie au Canada sont vertigineux. Et comme partout ailleurs, au territoire du Nord-Ouest, COVID-19 a imposé une explosion des dépenses depuis le printemps dernier, en plus d'importantes pertes de revenus. Mais malgré tout, le GTNO finira l'année avec un surplus budgétaire, et ce, même plus élevé que ce qui était prévu avant la crise. Avec l'apport des fonds d'urgence fournis par le gouvernement fédéral, qui s'élève jusqu'à maintenant à 92 millions, on prévoit que les recettes fiscales de l'année au TNO surpasseront les dépenses pour un surplus de 34 millions. La ministre des Finances, Caroline Vazonek, en a fait l'annonce en chambre le 16 octobre dans le cadre d'une mise à jour budgétaire.
We're in some ways quite fortunate that so much of our budget does come from federal transfers. Indeed, 80% comes from federal transfers.
Dans une certaine mesure, nous sommes chanceux qu'une bonne partie du budget des territoires du Nord-Ouest proviennent des transferts du gouvernement fédéral, soit à 80%, a commenté la ministre lors d'une rencontre avec les médias le 20 octobre. Les montants d'aide d'urgence voués entre autres au système de santé, aux écoles ou encore à certains secteurs d'activité comme l'aviation ont ainsi pallié les pertes de revenus engendrées par la crise sanitaire. Parmi les pertes, on note la diminution des prélèvements d'impôts, les mesures d'allègements fiscaux aux entreprises ou encore d'importantes pertes de revenus sur les ressources naturelles. Malgré les bonnes nouvelles, la durée et l'ampleur des impacts de cette crise demeurent toujours indéterminées et la ministre entend relever les défis à venir avec des budgets limités. À l'heure actuelle, il est toujours exclu de renflouer les coffres en augmentant les taxes et l'impôt sur le revenu ou encore en haussant à nouveau la limite d'emprunt territorial. Le plafond d'emprunt s'élève maintenant à 1,8 milliard après une hausse récente de 500 millions accordée par Ottawa dans la foulée de la réponse à la pandémie.
The reality is that expenditure management will need to be the main pillar in moving the GNWT onto a sustainable fiscal path.
La réalité, explique la ministre Vazonek, c'est que la gestion des dépenses devra être le principal élément qui permettra au GTNO de prendre une trajectoire budgétaire durable. Elle ajoute que des choix difficiles devront être faits afin de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Et ce, tout en fournissant les programmes et services dont ont besoin les résidents des TNO, spécialement dans le contexte de la COVID-19.
But I want to be very clear. Expenditure management is not the same as expenditure reduction. The budget dialogue's participants gave considered suggestions for better expenditure management to improve our efficiency and find more value for our dollar.
Cependant, je veux être très clair, a ajouté la ministre, la gestion des dépenses ne signifie pas que nous allons réduire les dépenses. En d'autres termes, le GTNO souhaite miser sur l'efficacité des dépenses afin de tirer le maximum de chaque dollar. Ainsi, les priorités seront revues au sein de chaque ministère du GTNO. La ministre a offert un exemple tiré de son propre ministère, soit l'industrie, le tourisme et l'investissement.
Money that would normally have been spent perhaps on the large marketing initiatives, maybe that is not an expenditure that you want to be doing right now, but you want to be looking at ways to support the industry, right? Or, you know, for a lot of the departments, I think they're going to be looking at what other savings are they finding internally that maybe they're not spending. So, you know, travel comes to mind, certainly.
L'argent qui serait normalement dédié à des initiatives marketing à grande échelle, par exemple, ne représente sans doute pas le genre de dépenses que nous prioriserons pour l'instant, a-t-elle indiqué. Nous préférons nous concentrer à appuyer l'industrie, par exemple. On apprenait également lors de cette mise à jour budgétaire qu'environ 4000 personnes, en majorité non résidentes des TNO, auront perdu leur emploi au point culminant de la crise en juin. Pour ce qui est des résidents, ce nombre descend à environ un millier. Si le gouvernement des TNO prévoit que d'ici la fin de l'année 2020, le niveau d'emploi devrait atteindre 90 % de ce qu'il était avant la pandémie, ce retour au travail sera toutefois différent d'un secteur à l'autre. On s'attend notamment à ce que le secteur du tourisme, qui a été jusqu'à maintenant le plus durement atteint par la crise, continue à en subir les conséquences au cours des prochains mois. La ministre a également souligné certaines préoccupations dans ce qu'elle désigne comme le changement de structure que pourraient subir certains emplois.
Some of the jobs that we see returning may be changing in their structure. And what I mean by that is that the number of hours being worked, the balance of full-time versus part-time, etc., that some of those other related issues may not recover to being the same as they were before. As a result of which, although we may have the same number of jobs and bringing us back up to that 90%, the quality of the job may not be the equivalent. So again, whether that's in pay or whether it's in the hours that are available.
Madame Vazonek souligne que le nombre d'heures travaillées, l'équilibre entre les emplois à temps plein et à temps partiel et ou encore d'autres paramètres de ce genre pourraient ne pas revenir à la situation qui prévalait avant la pandémie. Ainsi, même si certains secteurs retrouvent 90 % du nombre d'emplois d'avant la pandémie, la qualité de ces emplois pourrait ne pas être la même, que ce soit en matière de paie ou de nombre d'heures offertes par l'employeur. La session d'automne de l'Assemblée législative du Nunavut reprenait ce mercredi 21 octobre. Le premier ministre Joe Savikatak a déposé, comme prévu, une motion pour l'éjection du ministre Patrick Netser du conseil exécutif. Seul le principal intéressé s'y est opposé. C'est donc aujourd'hui, ce vendredi, que débattront les députés du Nunavut pour décider du sort du ministre. « Je m'attends à ce que cette motion soit adoptée », a affirmé le premier ministre, qui a révoqué plus tôt en octobre les portefeuilles du député Davy Leake après que ce dernier ait publié un commentaire sur Facebook évoquant le droit à l'avortement et le mouvement Black Lives Matter. Un commentaire qui a été jugé raciste et sexiste. Avant le dépôt de la motion visant son éjection du Conseil des ministres, Patrick Netser a fait une déclaration en chambre au cours de laquelle il s'est excusé à la communauté noire en indiquant qu'il n'avait l'intention d'offenser personne. Puis il a ajouté qu'il a été dépossédé de ses portefeuilles de ministre en raison de ses principes et valeurs chrétiennes. Une situation qui représente selon lui un exemple d'érosion de la diversité, de l'égalité, de la justice et de la tolérance au Canada et au Nunavut. Le premier ministre Joe Savikatak a interrompu la déclaration de M. Netser par un point d'ordre, en précisant qu'il n'a pas révoqué les portefeuilles du ministre en raison de ses croyances religieuses. Après coup, le premier ministre s'est dit surpris de la déclaration de Patrick Netser. Ses commentaires étaient fondés sur le racisme et la violence genrée et ne reflètent pas les valeurs et principes du gouvernement du Nunavut, a-t-il déclaré. Si cette motion est adoptée par les membres de l'Assemblée, Patrick Netser sera éjecté du conseil exécutif, mais il demeurera député régulier Davy Leake. Ce segment est tiré d'informations traitées par la journaliste IJL Megan Dooling pour le Nunatsiaq News. À Après avoir observé une brèche qui aurait été causée par l'Alberta dans l'entente sur les eaux transfrontalières au printemps dernier, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a indiqué en juillet vouloir siéger sur le comité de surveillance des sables bitumineux avec la province voisine. Afin de mieux protéger la qualité de ces eaux, une demande a été faite au gouvernement fédéral et à l'heure actuelle, cette demande n'a toujours pas pu être étudiée par les gouvernements de l'Alberta et des TNO. Mon collègue Denis Laure, journaliste IGL, fait le suivi de ce dossier depuis quelques mois. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Denis, vous parlez d'un brouillard bureaucratique en quelque sorte. Le GTNO attend depuis 4 mois une réponse à sa demande de siéger à ce comité de surveillance des sables bitumineux. Le fédéral dit que la demande a seulement été faite la semaine dernière.
Oui, c'est un dossier qui semble délicat. Je ne sais pas si c'est la relation qui est tendue entre le gouvernement Trudeau et l'Alberta a quelque chose à voir là-dedans, mais ça a été extrêmement difficile d'avoir des informations d'un côté autant que de l'autre. Il faut préciser que c'est l'Alberta et le Canada qui gèrent le programme de surveillance des sables bitumineux. C'est une très grosse machine qui est dotée d'un budget annuel de plus de 50 millions de dollars. Comme le bassin hydrographique des TNO est en partie alimenté par celui de l'Alberta et que l'Alberta a cessé de faire la surveillance sur les sites de pétrole pendant une partie de la pandémie, le GTNO a demandé à faire partie du comité de surveillance des sables bitumineux qui est co-présidé par le fédéral et le gouvernement albertain, mais où siègent aussi des représentants de l'industrie et des Premières Nations.
Et ce qu'on comprend ici, Denis, c'est que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest n'a pas la même chronologie sur le dossier que les autres parties prenantes.
Ah non, ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Mm-hmm. Donc, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles des TNO dit avoir présenté sa requête pour faire partie du comité de surveillance des sables bitumineux le 25 juin au co-président fédéral du comité, qui est Kevin Cash. La demande aurait été faite de nouveau, de vive voix, au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques Canada, Jonathan Wilkinson. Moira Kelly, l'attachée de presse au cabinet du ministre Wilkinson, nous donne une version légèrement différente. On l'écoute.
C'est une décision par unanimité pour des décisions. C'est donc la comité prend des décisions sur la base d'un consensus, mais la difficulté, c'est que l'accord ne décrit pas un processus d'admission des nouveaux membres. C'est pas comme explicit. Ils devraient considérer la requête s'ils le reçoivent, mais à présent, la comité n'a pas reçu la requête.
Selon une porte-parole d'Environnement et Changement climatique Canada, c'est la semaine du 11 octobre que la procédure d'adhésion a été expliquée au GTNO et que celui-ci a fait officiellement sa demande au comité.
Quelles sont les chances que le GTNO soit admis au comité?
Écoutez, sous couvert de l'anonymat, il y a une personne au fédéral qui m'a dit que l'Alberta n'était pas du tout en faveur de ça. J'ai aussi parlé à un ancien ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles des TNO, Michael Miltonberger. Monsieur Miltonberger est très impliqué dans les dossiers qui touchent l'eau. Il est aussi membre de l'organisme Forum for Leadership on Water, FLOW. Il n'a pas voulu se prononcer sur les chances des TNO d'être admis dans ce comité-là, mais il assure que c'est une décision qui dépend uniquement du Canada et de l'Alberta, contrairement à ce que Moira Kelly disait. Aussi, M. Miltonberger considère qu'il y a actuellement un manque de cohésion dans la gestion de l'eau. On l'écoute si vous voulez.
You have Canada and Alberta in a process to monitor the oil sands, which is the biggest environmental issue in the Mackenzie Basin. At the same time, you have Alberta and the Northwest Territories has a transboundary agreement that has similar concerns. But Canada set up the whole Mackenzie River Basin Board, and now we got these two disconnected parts. It would be much more efficient and much more effective to make sure that they're linked.
Donc, Michael Miltonberger, ancien ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, pour résumer sa pensée, il y a deux processus simultanés avec des préoccupations similaires, le comité de surveillance des sables bitumineux et de l'Alberta et du Canada, et celui des eaux transfrontalières de l'Alberta et des TNO. Mais maintenant, on a ces deux morceaux. Ces deux morceaux sont déconnectés en quelque sorte, Denis.
Oui, ce que M. Miltonberger croit, c'est que le rôle du comité de surveillance des sables bitumineux pourrait être dévolu à un conseil de bassin du Mackenzie qui aurait plus de pouvoir et plus de ressources. C'est un organisme qui existe déjà, mais on en entend très, très, très peu parler et il y a très peu de moyens. Donc, ces choses-là qui font un peu double emploi devraient être fusionnées, par exemple, dans le conseil de bassin du Mackenzie. Puis M. Miltonberger espère aussi que le fédéral tiendra sa promesse de créer une agence canadienne de l'eau qui va fournir une coordination, une surveillance nationale avec tous les comités comme celui du Mackenzie, puis comme ce qui existe actuellement avec le comité de surveillance des sables bitumineux.
Parfait. Ben, de ce qu'on comprend, Denis, c'est donc un processus de plusieurs mois, là, mais qui s'entame en quelque sorte là, depuis la semaine dernière. Alors, on vous laisse faire le suivi. Denis Laure, journaliste IGL et auditeur, on vous invite à lire l'article « Brouillard bureaucratique » dans l'édition du journal L'Aquilon de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Au revoir Thomas, au revoir tout le monde.
Avec le réchauffement climatique, la fonte du pergélisol provoque des dégâts sur la route d'Amster. Parcourant plus de 737 km, cette route relie le Yukon aux communautés du delta du Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest comme Inuvik. Depuis novembre 2017, elle a été prolongée jusqu'au village arctique de Toktoyaktok et le relie maintenant au reste du réseau routier national. Construite en grande partie sur le pergélisol, cette route non asphaltée, présente depuis le début de son ouverture à la circulation à la fin des années 70, des problèmes. Pour Fabrice Kelmel, chaire de recherche sur le pergélisol au centre de recherche de l'Université du Yukon, des problèmes comme l'apparition de trous d'effondrement ou de glissements de terrain sont récurrents sur certaines portions de la route.
Déjà, fabriquer une route, poser une route sur le pergélisol est une cause de perturbation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Dempster est une autoroute qui est vieillissante. Donc, le premier facteur, c'est que la route commence à être vieillissante. Maintenant, vous avez le deuxième facteur qui est que, oui, avec les changements climatiques, on observe des périodes de précipitation, soit plus intenses, soit plus longues. Et ça, rajouter de l'eau dans le système, c'est mauvais.
Le gouvernement du Yukon a dépensé 9,5 millions pour l'année fiscale 2019-2020 en entretien de la portion de la route sur son territoire, soit 465 km. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, quant à lui, a dépensé 8,8 millions de dollars l'année dernière pour plus de 270 km. Cette route joue un rôle fondamental dans l'approvisionnement des communautés. Entre 1993 et 2018, la fréquentation a augmenté de 88%. Cependant, il y a eu une baisse notable en 2019 et les chiffres de 2020, qui reflèteront directement la pandémie de COVID-19 ainsi que la fermeture de la frontière entre les territoires du Nord-Ouest et le Yukon, s'inscriront dans la continuité de la baisse de fréquentation. Des solutions sont en place du côté yukonais, avec l'installation par exemple d'une station météo au kilomètre 82 qui pose des problèmes récurrents.
Ça fait partie du suivi, mais c'est surtout pour nous, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension du timing des événements. Savoir quand est-ce que le trou va se former, on va être capable de le replacer par exemple avec les précipitations, avec les températures enregistrées dans le sol. Et ça, un peu plus tard, ça peut peut-être nous permettre d'anticiper la formation de ce trou d'effondrement.
De son côté, Transport Canada a mis en place un réseau national d'échange d'informations et de données autour de l'impact des changements climatiques sur les transports. Si l'étude du pergélisol n'est pas récente, une approche plus holistique a pris le dessus au début des années 2000 et prend en compte les aspects environnementaux. Cependant, avec une estimation de l'augmentation de la température jusqu'à plus 4 degrés d'ici 2050, les jours sont comptés pour trouver des solutions à long terme et tenter d'éviter la fonte totale du pergélisol dans l'Arctique canadien. C'était Nelly Guidici pour Zone Arctique.
Le Conseil de développement économique des TNO, le CDTNO, tenait ce mercredi 21 octobre son Assemblée générale annuelle qui a rassemblé une trentaine de membres de la communauté francophone sous une formule virtuelle. Du côté du rapport financier, on peut noter une importante augmentation des charges de l'organisme, soit près de 300 000 $ entre 2019 et 2020, C'est un montant qui est en grande partie lié à l'augmentation du nombre de personnel et en conséquence de l'achat de matériel supplémentaire ou d'un loyer plus important. On souligne également la création du centre de services intégrés co-géré entre le CDTNO et la FFT. C'est un centre qui inclut le partenariat du Collège Aurora, du Collège Nordique et du NWT Literacy Council. Le centre de services intégrés a pour objectif de permettre aux nouveaux arrivants de recevoir les services francophones tous au même endroit. Si le rapport général de l'organisme s'arrêtait au 31 mars 2020 et ne faisait donc pas état de la pandémie, il était évidemment inévitable de l'évoquer lors de cette AGA d'octobre. Le responsable du Carrefour Carrière, Gordon Ross, s'est exprimé rapidement sur la situation actuelle de l'emploi au TNO. À la fin de l'année fiscale, indique-t-il, nous avons été touchés par la pandémie. Nous avons réagi rapidement et nous avons tenu tête à la courbe en aidant les clients qui avaient besoin des mesures d'urgence et d'assurance pour leur emploi. À la fin de l'Assemblée, une liste de nombreux événements à venir a été présentée, en grande majorité virtuelle. On retrouve notamment deux journées carrières prévues aux écoles francophones Alain-Saint-Cyr et Boréal, respectivement les 3 et 6 novembre. Le 25 novembre, le CDTNO organise également son premier café emploi de la saison. Sur le plan du conseil d'administration, 4 membres ont décidé d'y rester, soit le président Frédéric Deschênes, le trésorier Jean-François Pitre, ainsi que Roland-Éric Rakotomena et Bouchra El-Aram. Le 5e membre n'a toujours pas été désigné. Pour siéger au CA du CDTNO, il faut parler français et représenter une entreprise du secteur privé. La 14e édition du Festival international du film de Yellowknife se déroule du 4 au 8 novembre. On nous présente cette année une sélection de 54 films dans une formule entièrement virtuelle. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade est avec nous pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas. Oui, effectivement, donc entièrement en virtuel cette année. WAMP, l'organisme qui organise ce festival, donc le Western Arctic Moving Pictures, a considéré que c'était un peu trop compliqué cette année d'organiser, que ce soit au Capitole, au Cinéma Capitole ou au NAC. Donc en fait, à cause du nombre limité de places disponibles ou encore le coût de la location qui est trop élevé, les organisateurs donc, ne s'y retrouvaient pas financièrement.
Et comment elle fonctionne, cette formule virtuelle? Comment est-ce qu'on peut voir les films qu'on a sélectionnés?
Alors en fait, concernant déjà les tarifs, donc chaque écoute, que ce soit un court ou un long métrage, coûte 10 $, 8 $ pour les étudiants ou les aînés. Et il est possible aussi de prendre un accès illimité pour 75 $ ou pour 6 films à 40 $. Donc tout se déroule sur la plateforme du Festival international du film de Yellowknife. On retrouve toute la sélection de tous les films. Et voilà, c'est assez facile de naviguer dedans. Il suffit il y a des horaires précis pour chaque film. C'est environ, on a à peu près 24 heures pour commencer et pour terminer le film. Et on peut le regarder pendant 1 voire 3 jours.
J'imagine qu'il y en a plusieurs qui vont souligner l'importance de payer pour la culture, surtout en ces temps de crise. Donc, 54 films, tous n'auront pas nécessairement le temps de faire le tour. L'Aquilon a fait une sélection. Il y a 5 films francophones cette année, Cécile.
Oui, c'est ça. Donc, il y a 5 films francophones. Donc, il y a « And the Birds Raining Down » de Louise Archambault. Donc, on traduit « Il pleuvait des oiseaux ». Il y a le court-métrage « Solstice d'un cœur brisé » de Fanny Lefort, le court-métrage « Jeep Boys » d'Alec Pronovost et « Stardust » qui est un court-métrage de Marion Chrisman et Adèle Prévost. Et il y a aussi « La belle époque » de Nicolas Bedos qui est un film français qui a été triplement récompensé au César, qui ne parle ni du Nord ni du Canada, mais qui est tout de même dans la sélection.
Et au-delà de la langue, anglais, français, toutes langues confondues, Cécile, il y a certains films qui ont quand même retenu l'attention de l'équipe du journal L'Aquilon.
Oui, parce que bon, même auto-isolé en 5 jours, enfin 4 jours, on n'a pas le temps de tout voir. Donc moi, je vous propose, il y a 3 films qui ont retenu notre attention. Le premier, c'est un court-métrage de 47 minutes de Keith Robinson qui s'appelle « Family Route ». C'est un documentaire qui suit le périple en canot aux confins du Dénédé d'une famille de Yellowknife avec leurs 2 jeunes enfants. Et c'est 107 jours de leur quotidien. C'est un documentaire très inspirant. Ensuite, un autre documentaire qui s'appelle The Arctics, qui est réalisé par Naomi Mark et Marty O'Brien, qui est un court-métrage d'une heure. Un long métrage même d'ailleurs d'une heure, qui est un documentaire sur les Jeux d'hiver de l'Arctique 2020 qui n'ont pas eu lieu. Mais en gros, les réalisateurs suivent pendant de longs mois tous les sportifs des 9 différents sports qui sont présentés à ces Jeux. Et dernier documentaire, qui est un documentaire à l'actualité vraiment brûlante, qui s'appelle No Visible Trauma, qui est réalisé par Robinder Uppel et Mark Serpa-Franker, qui est un documentaire d'une heure 37 qui parle de la violence policière, parce qu'il y a eu une étude qui a montré en 2018 que les agents du service de police de Calgary avaient infligé un taux qui avait le taux le plus élevé de blessures et de décès de toutes par rapport à toutes les grandes villes canadiennes et même de Chicago et de New York. Donc voilà, c'est un très beau documentaire qui parle bien de ce qui se passe en ce moment.
Donc, à voir à la 14e édition du Festival international du film de Yellowknife. Ça commence le 4 novembre. Cécile Antoine Maisonnade, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Et voilà, c'était l'actualité de la semaine. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous retrouve la semaine prochaine à Territoire d'Info. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.